Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans ce chapitre 13, c'est les droits de Dieu sur son peuple. Et on va lire dans ce chapitre, versets 1 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, qu'il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau, tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils, tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela ? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète pour tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Voilà tout ce qu'il faut rapporter. Alors ce récit, le récit de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, est interrompu donc au chapitre 13. L'Éternel parla donc à Moïse, disant, « Sanctifie-moi ou consacre-moi tout premier-né. » Voilà un point important auquel Dieu est très attaché. Israël, qui était occupé de sa merveilleuse délivrance, se trouvait maintenant peut-être en danger d'oublier les droits de l'Éternel sur lui, sur eux. Car souvenons-nous bien qu'en épargnant les premiers-nés d'Israël cette nuit de Pâques, l'Éternel avait un droit. L'Éternel l'avait acquis pour lui au prix du sang de l'agneau. Si bien que nous voyons au verset 2 ce qu'il déclare. Dans la version seconde, il est dit « Il m'appartient ». Et dans la version Darby, il est dit « Ils sont à moi ». Et encore plus, je dirais, le Seigneur est encore plus important, cette parole de la version seconde. C'est vrai, il m'appartient, c'est à moi, mais ils sont à moi, c'est très important. Alors les mots sont donc très forts dans ces passages. Et Dieu veut parler de la sanctification, c'est-à-dire de la mise à part pour lui, au niveau des personnes, mais aussi des biens. Et le Nouveau Testament nous enseigne la même chose. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans le chapitre 6, 1 Corinthiens 6, verset 11, on ne va pas lire tout ce chapitre parce que ça ferait long, après ça prend du temps, mais on va lire quand même les deux derniers versets de ce chapitre, c'est-à-dire 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés à grand prix. N'oublions jamais que l'Ancien Testament révèle le Nouveau Testament. Et je crois que nous minimisons très souvent notre appel ou notre vocation. Les exigences de Dieu pour nous, pour son peuple, dans l'Ancien Testament, sont aussi ses exigences aussi pour nous aujourd'hui. Et pour moi, pour chacun d'entre nous. Et même si nous sommes sous la grâce, rappelons-nous que nous avons justement été sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés. Donc, nous lui sommes entièrement redevables. Et ensuite, à la sanctification des premiers-nés, l'Éternel veut aussi ajouter aussitôt le souvenir de la délivrance. Un autre point très important pour le peuple de Dieu, et il leur donne quelque chose de très significatif pour la vie d'un serviteur de Dieu, les pains sans levain, verset 3. On rappelle ce passage parce que les pains sans levain veulent dire aussi une vie sans péché, une vie exempte de péché. Autrement dit, la sainteté dans une vie, dans une pratique, dans une mise à part, toujours plus proche du Seigneur, lié au souvenir de cette nuit mémorable, du chapitre 12, versets 7 et 8. Toujours en relation avec ce que Dieu a fait pour ce peuple, comme ça a bien été signalé tout à l'heure dans ce sketch, le sang qui a été versé pour chacun de nous, pour chacun des Hébreux, le pain sans levain qui symbolise la sanctification, les herbes amères. Ces herbes amères qui rappellent aussi ce temps passé dans ce pays, on pourrait dire l'amertume, dans ce pays d'Égypte. Alors tout cela devra rester intact dans la mémoire du peuple délivré et acquis quand ils seront entrés dans le pays promis. On voit au verset 5, au verset 6 et au verset 7. Puis un autre point très important, la fête des pains sans levain devait aussi donner aux parents israélites l'occasion d'expliquer aux fils le pourquoi de cette fête. Car c'est vrai que nous oublions très vite, et donc nous sommes obligés de rappeler sans cesse, et c'était une charge pour les parents israélites, de rappeler ces fêtes, c'était très important. Et c'est pour ça que les Israélites font beaucoup de fêtes, en fait, pour rappeler tout ce que Dieu a fait pour eux. Verset 5, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. C'est-à-dire qu'ils sont sortis dans le mois de Nisan, c'est-à-dire mars-avril. Et donc, il devait rappeler cette fête chaque année dans ce mois-ci. C'est à cause de ce que l'Éternel, ou en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte, verset 8. C'est donc la raison profonde de ce souvenir, ce que l'Éternel a fait pour moi. Donc, parler à sa descendance de cette délivrance comme une expérience personnelle et vivante, c'est aussi pour nous aujourd'hui, chrétiens de la Nouvelle Alliance, notre devoir de parents. Puissions-nous dire aussi, comme l'apôtre Paul le dira aux Galates, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Comme on a vu tout à l'heure, raconte-leur tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Raconte-leur tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Et c'est vrai que, individuellement, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Et il le fait tous les jours. Alors l'importance de la pratique d'une vie de sainteté, symbolisée ici par le pain sans levain, dans la vie de l'Israélite, c'est là la véritable marque d'appartenance et de soumission. Tout devait être en accord avec la parole de Dieu. La conduite doit être démontrée, son appartenance, elle doit refléter le respect envers celui qui est à l'origine de son rachat pour que son témoignage puisse avoir une vraie crédibilité. Pour le fils qui voit vivre ses parents, sa famille. C'est ça, je dirais, la foi en action. Et c'est ça ce qui est le plus difficile à faire pour nous parents. Je pense que les enfants sont là pour capables de juger. C'est vrai qu'on n'est pas infaillible, nous les parents. Et malheureusement, on ne donne pas toujours le témoignage qu'on devrait donner. Mais on vous demande pardon encore aujourd'hui si on vous a offensé quelque part. C'est vrai qu'on n'a pas su toujours faire ce qu'il fallait. Au verset 12, Dieu rappelle à son peuple ses droits à lui. Sa part, bien que tout lui appartienne, tout premier-né et même tout premier-né des animaux. Le Seigneur est propriétaire de tout, en fait. Et il nous en fait les gérants. Donc tout est lié. Il ne peut pas y avoir consécration sans sainteté et sans mise à part. Car c'est là précisément le signe de l'obéissance à ce Dieu souverain et sauveur. Nous devrions être tout entiers à Dieu et pour Dieu. Ce serait la norme légale. C'est même la norme légale. Et c'est vrai que là aussi, nous donnons souvent qu'une portion de nos vies au Seigneur. Nous en reprenons largement plus que nous lui en donnons. Là encore, on peut dire pardon Seigneur. Enfin, en tout cas pour moi. Verset 13. Il y a une disposition toute particulière dans ce passage en ce qui concerne le rachat des âmes. Ah, pourquoi ? Dieu a quelque chose à nous apprendre là aussi. L'âne ne représente pas les caractères des bêtes pures. Nous le lisons dans le livre Lévitique, au chapitre 11, versets 1 à 8 et verset 26. Dieu donne la liste de ces animaux impurs. Et donc l'âne apparaît. L'âne est donc impur, comme beaucoup d'autres. Pourquoi donc doit-il être racheté avec un agneau ? Au même titre que le premier-né de l'homme. Au verset 13, on voit qu'il doit avoir la nuque brisée. Dieu veut mettre devant nous ce point d'interrogation pour une bonne raison. Sans doute parce que l'âne représente ici l'homme, excusez-moi, mais je suis dedans, hein, représente l'homme qui, par nature, est étranger, ennemi de Dieu, dans ses pensées et ses actions. Et c'est vrai que l'homme naturel, on peut dire qu'il est animal. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans certaines versions de Bible, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2, il parle de l'homme animal ou l'homme naturel. Et donc, l'homme sans Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe qui et n'importe quand. Et je crois que si le Seigneur ne nous retient pas, il est vrai que nous-mêmes, nous sommes des animaux ambulants, capables de faire n'importe quoi. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 21, nous lisons « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Alors, comme l'illustre si bien Ismaël dans le livre de Genèse, chapitre 16, verset 12, « Il sera comme un âne sauvage. » On connaît l'histoire de ce fils de la servante. Lui, le fils d'une femme égyptienne, Agar, né de la chair, c'est-à-dire d'une décision humaine. Car souvenons-nous qu'Abraham et Sarah n'ont pas consulté Dieu pour accomplir sa volonté. Et de ce fait, toute sa descendance deviendra ennemie du peuple élu. Et bien sûr, ennemie de Dieu. Dans le psaume 83, on a toute une forte illustration de ce que sont devenus tous ces peuples envers Israël. Et on peut encore le voir aujourd'hui, Israël est toujours persécuté par des peuples qui descendent, malheureusement, de cette descendance. Alors tout cela pour bien préciser et appuyer l'importance de passer par le rachat. Il nous faut absolument rentrer et rester dans le plan de rédemption de Dieu que Dieu a préparé pour notre salut. Et la manière dont s'effectue ce rachat, seul le sang de l'agneau répond à toutes les exigences de Dieu. Je voudrais vous donner une petite illustration pour rappeler combien l'homme sans Dieu est incapable de juger les choses de Dieu. Une personne non régénérée ne veut pas et ne peut pas recevoir le message de sagesse, quelles que soient ses capacités intellectuelles et ses talents. C'est peut-être choquant ce que je vous dis là, mais c'est une vérité biblique. Un critique non régénéré de la parole de Dieu est comme un critique de Jean-Sébastien Bach, qui serait sourd. C'est vrai que si nous écoutons cette musique et que nous jugeons cette musique et que nous sommes sourds, je ne sais pas ce que nous pouvons juger. Et c'est la même chose pour celui qui regarde un merveilleux tableau de Raphaël, mais qui est aveugle et qui se permet de juger ce tableau. Donc l'homme sans Dieu ne peut pas juger les choses de Dieu. Il faut vraiment